Giacomo Casanova, M.M. 6 mois après ma brève maladie, me trouvant mieux, j'allais au casino de Muran, où la concierge me remit une lettre de M.M. Elle me disait qu'elle mourait d'impatience de me savoir établi et en possession de son casino avec tous les droits que je devais y conserver toujours. « Marque-moi, je t'en supplie, me disait-elle, quand tu crois que nous nous reverrons à Muran ou à Venise, à ta volonté. Compte, ajoutait-elle, que partout nous serons sans témoins. » Je lui répondis de suite que nous nous reverrions le surlendemain au lieu même où j'étais, car c'était au même endroit où je l'avais offensé que je devais recevoir son amoureuse absolution. Je brûlais de la revoir, car j'avais honte d'avoir pu être injuste à son égard, et il me tardait de réparer mes torts. Connaissant son caractère et réfléchissant dans le calme, il me paraissait évident que ce qu'elle avait fait, bien loin d'être un indice de mépris, était un effort raffiné d'un amour qui n'avait pour objet que moi-même. Depuis qu'elle avait découvert que j'étais l'amant de sa jeune amie, pouvait-elle se figurer que je l'aimais uniquement? De même que l'amour qu'elle avait pour moi ne l'empêchait pas d'être complaisante avec l'ambassadeur, elle supposait que je pouvais l'être avec C.C. Elle ne pensait pas à la constitution différente des deux sexes et aux privilèges dont jouissent les femmes. Aujourd'hui que les ans ont blanchi mes cheveux et amorti l'ardeur de mes sens, mon imagination, plus calme, me fait penser différemment. Et je sens bien que ma belle nonne péchait contre la pudeur et la modestie, qui sont les plus beaux apanages de la plus belle moitié du genre humain. Mais si cette femme vraiment unique ou au moins rare avait ce travers qu'alors je taxais de vertu, au moins était-elle exempte de ce venin affreux qu'on nomme jalousie. Passion malheureuse qui dévore l'être infortuné qui en est atteint et qui dessèche l'objet qui la fait naître et sur lequel elle se déverse. 2 jours après, le 4 février 1754, j'eus le bonheur de me retrouver tête à tête avec mon ange. Elle était vêtue en religieuse. Comme nous nous croyions réciproquement coupables dès que nous nous aperçûmes, par un mouvement spontané, nous tombâmes à genoux l'un au pied de l'autre, ou plutôt à genoux contre genoux. Nous avions tous deux maltraité l'amour, elle en le traitant en enfant, moi en l'adorant en janséniste. Mais quel langage aurait pu convenir aux excuses que nous devions nous faire, au pardon que nous devions obtenir? Le baiser, ce langage muet et expressif, cet attouchement délicat et voluptueux qui fait circuler le sentiment dans toutes les veines, qui exprime tout à la fois ce que sent le cœur et ce qu'arrange l'esprit, ce langage fut le seul que nous employâmes, et sans avoir articulé une syllabe, lecteur, oh, que nous fûmes bientôt d'accord. Au comble de l'attendrissement, impatient de nous donner des preuves de la sincérité de notre retour et du feu qui nous dévorait, nous nous levâmes sans nous dessaisir et, tombant en groupe sur le sofa voisin, nous y restâmes jusqu'à l'arrivée d'un long soupir que nous n'aurions pas voulu arrêter quand nous aurions su qu'il devait être le dernier. C'est ainsi que s'opéra l'heureuse réconciliation, et la tranquillité que laissa l'âme la satisfaisante persuasion, ayant pour ainsi dire doublé notre bonheur, nous partîmes ensemble d'un éclat de rire en nous apercevant que j'étais encore en manteau et en bahute. Après avoir bien ri, je me démasquai et je lui demandai s'il était bien vrai que notre réconciliation n'eût pas eu de témoin. Elle prit un flambeau et me prenant par la main, « Viens, me dit-elle. » Elle me mena dans la chambre où était une grande armoire que j'avais déjà jugée dépositaire du grand secret. Elle l'ouvrit, et après avoir poussé une planche à coulisses, je vis une porte par laquelle nous entrâmes dans un joli cabinet muni de tout ce qui pouvait être nécessaire à quelqu'un qui voulait y passer plusieurs heures. À côté du sofa se trouvait une planche mouvante. M.M. la tira et, par 20 trous à quelque distance, les uns des autres, je vis toutes les parties de la chambre où le curieux ami de ma belle avait pu voir avec facilité les 6 actes de la pièce que la nature et l'amour avaient arrangée, et je pense qu'il n'avait pas dû être mécontent des acteurs. « Actuellement, me dit M.M., je vais satisfaire à la curiosité que tu as eue la prudence de ne pas confier au papier. Mais tu ne peux savoir, tais-toi, mon cœur. L'amour ne serait pas divin s'il n'était devin. Il sait tout. Et pour preuve, n'est-il pas vrai que tu désires savoir si l'ami n'était pas avec moi pendant la fatale nuit qui m'a coûté tant de larmes ? Précisément. Eh bien oui, il y était. Oh, tu ne dois pas en être fâché, car tu as achevé de l'enchanter. Il a admiré ton caractère, ton amour, tes sentiments et ta probité. Il ne pouvait se taire sur l'étonnement que lui occasionne la rectitude de mon instinct, ni assez approuver la passion que tu m'as inspirée. C'est lui qui me consola le matin, en m'assurant qu'il était impossible que tu ne revinsses pas à moi, dès que je t'aurais fait connaître mes sentiments, la loyauté de mon intention et ma bonne foi. Mais vous devez vous être souvent endormi, car sans un vif intérêt, il n'est pas possible de passer ainsi 8 heures dans l'obscurité et le silence. Mais nous étions mus par l'intérêt le plus vif. D'ailleurs, nous n'étions dans l'obscurité que lorsque nous tenions ces trous ouverts. Pendant que nous soupâmes, la planche était relevée et nous écoutions dans le plus grand silence jusqu'à vos moindres propos. L'intérêt qui tenait mon ami éveillé surpassait, s'il est possible, celui que vous m'inspiriez. Il me dit qu'il n'avait jamais été plus à portée d'étudier le cœur humain que dans cette occasion, et que tu ne dois jamais avoir passé une nuit aussi pénible. Tu ne faisais pitié. Nous fûmes enchantés de cesser, car il est inconvenable, concevable, qu'une jeune personne de 15 ans raisonne comme elle l'a fait pour me justifier, sans autre moyen que la nature et la vérité, à moins d'avoir l'âme d'un ange. Oh, si tu l'épouses, tu auras une femme divine. Je serai malheureuse en la perdant, mais ton bonheur me dédommagera de tout. Sais-tu, mon ami, que je ne comprends pas plus comment tu as pu t'amouracher de moi après l'avoir connue, que je ne puis concevoir comment elle me déteste, pas depuis qu'elle sait que je lui ai ravi ton cœur. Ma chère C.C. a véritablement quelque chose de sublime dans le sentiment. Et sais-tu pourquoi elle t'a confié ses amours stériles avec moi ? C'est, m'a-t-elle dit, pour décharger sa conscience de l'espèce d'infidélité qu'elle te fait. Croit-elle me devoir toute sa fidélité en me sachant si peu fidèle ? Oh, elle est extrêmement délicate et consciencieuse, et se croyant parfaitement ta femme, elle ne se croit pas en droit de contrôler tes actions, tandis qu'elle est persuadée qu'elle te doit compte de toutes les siennes. Noble fille ! La prudente concierge ayant servi le souper et nous étant mise à table, M.M. observa que j'avais maigri. Les souffrances physiques n'engraissent pas, lui dis-je, et les peines morales dessèchent. Mais nous avons assez souffert l'un et l'autre, et nous devons être assez sages pour ne rien rappeler de ce qui peut nous être pénible. Oui, mon ami, je pense comme toi. Les instants que l'homme est forcé de céder au malheur ou à la souffrance sont autant de déductions faites à la vie. Mais on double l'existence quand on a le talent de multiplier le plaisir, de quelque nature qu'il soit. Nous nous égayâmes à nous rappeler les dangers passés, la mascarade de Pierrot, le bal de Briatti, où on lui avait assuré qu'il y avait un autre Pierrot. M.M. admirait le prodigieux effet du déguisement, car, me disait-elle, le Pierrot du parloir me paraissait plus grand et plus mince que toi. Si le hasard ne t'avait pas fait prendre la gondole du couvent, et que n'eusse pas eu la bizarre idée de te déguiser en Pierrot, je n'aurais pu savoir qui tu étais, car mes compagnes ne se seraient pas intéressées à ton sort. J'ai été ravi d'aise en apprenant que tu n'es pas patricien, comme je le craignais. Car si tu l'étais, il pourrait à la longue m'arriver quelques mésaventures désespérantes. Je savais fort bien ce qu'elle devait craindre, mais faisant l'ignorant. Oh, je ne conçois pas, lui dis-je, ce que tu pourrais craindre si j'étais patricien. Mon cher ami, je ne puis te parler ouvertement qu'autant que tu me donneras ta parole de faire ce que je te demanderai. Mais quelle difficulté, ma chère, puis-je avoir à te faire tel plaisir que tu pourras désirer, pourvu qu'il ne compromette pas mon honneur. Tout maintenant n'est-il pas commun entre nous? Parle, mon cœur, dis-moi les raisons, et compte sur ma tendresse. Elle te répond de ma complaisance pour tout ce qui pourra te faire plaisir. Fort bien. Alors je te demande à souper dans ton casino avec mon ami qui meurt d'envie de faire ta connaissance. Et après souper, je prévois que tu t'en iras avec lui. Mais tu sens bien que le masque des convenances l'exige. Et ton ami, sans doute, sait déjà qui je suis. Oui, j'ai cru devoir le lui dire, car sans cela, il n'aurait pas osé se promettre le plaisir de souper avec toi, et surtout chez toi. Oh, j'y suis. Et je devine que ton ami est un ministre étranger. Oui, précisément. Mais je puis espérer sans doute qu'il me fera l'honneur de ne point garder son incognito. Non, non, cela va sans dire. Je te le présenterai dans toutes les formes en déclinant son vrai nom et ses qualités politiques. Et c'est à merveille, mon cœur. Et avec ces dispositions, pouvais-tu me supposer difficile à t'accorder ce plaisir, quand tu ne saurais toi-même m'en faire un plus grand? Fixe le jour et compte que je t'attendrai avec impatience. Oh, j'aurais été certaine de ta complaisance si tu ne m'avais accoutumé à douter. Mais mérite cette pointe. Mais j'espère que tu ne feras qu'en rire. Maintenant, je suis contente. Notre ami est M. de Bernis, ambassadeur de France. Il viendra masqué et dès qu'il aura levé son masque, je te le présenterai. Songe que tu ne dois pas ignorer qu'il est mon amant, mais que tu dois croire qu'il n'est pas à part de notre tendresse. Ainsi le veut le masque des convenances, et tu seras, je l'espère, contente de mon urbanité. Ce souper me charme en idée. J'espère qu'il me ravira en réalité. Tu avais bien raison, ma chère amie, de redouter que je fusse patricien. Car, dans ce cas, messieurs les inquisiteurs d'État, qui trop souvent ne cherchent qu'à faire parade de leurs ailes, n'auraient pas manqué de s'en mêler, et je tremble à l'idée des affreuses conséquences que cela aurait pu avoir. Moi, sous les plombs, toi, déshonoré, la messe, le couvent, oh, juste ciel. Oui, si tu m'avais communiqué tes idées, je t'aurais dit que j'ai qui j'étais. Et puis je l'aurais pu d'autant mieux que ma réserve ne venait que de la crainte que j'avais d'être connu, et qu'alors le père de C.C. me l'a mis dans un autre couvent. Mais peux-tu me dire quel jour le souper aura lieu? J'ai une véritable impatience de le savoir fixer. C'est aujourd'hui le 4, eh bien, dans 4 jours, ce sera donc le 8. Oui, précisément, nous nous rendrons chez toi après le second ballet de l'opéra. Donne-moi les renseignements les plus exacts pour que nous puissions trouver ton casino sans interroger personne. Je me mis à son bureau et je lui donnai tous les renseignements nécessaires pour aller par terre ou par eau. Heureux de cette charmante partie, je priai mon amante d'aller se coucher. Mais je lui fis observer qu'étant convalescent, ayant soupé de bon appétit, il serait possible que j'offrisse mes premiers hommages à Morphée. S'arrangeant à la circonstance, elle mit le réveillon à 10 heures et nous nous couchâmes dans l'alcôve. Dès que nous fûmes réveillés, l'amour réclama sa part, et il n'eut pas à se plaindre, mais vers le minuit, nous nous endormions sur le faîte, bouche à bouche, et nous nous retrouvâmes dans la même position le matin, au moment de nous séparer. Cependant, quoique le temps pressât, nous ne pûmes nous résoudre à nous dire adieu sans faire encore une libation à Vénus. Je restai au casino après le départ de ma belle nonne et je dormis jusqu'à midi. Dès que je fus habillé, je retournai à Venise et mon premier soin fut d'aller prévenir mon cuisinier pour que mon souper du 8 fût digne des convives et de moi.